Deuxième chose, je t'encourage à faire une expérience demain si tu as l'occasion. Prends un chandail bleu ou une casquette avec un fleur de lysée, promène-toi en ville et dis « Bonne Saint-Jean-Baptiste » à tous les gens que tu croises. Tu verras, tout le monde va te répondre. Et donc, ce matin, notre thématique, on va s'intéresser à Jean-Baptiste, à l'original, si je peux dire, celui dont le Nouveau Testament nous parle. Et ce que je vais faire, et certains d'entre vous, vous connaissez le principe, je vais raconter l'histoire de Jean-Baptiste, comme si moi j'étais Jean-Baptiste, comme si moi j'étais dans ses baskets ou dans ses sandales. Et j'aimerais juste, avant ça, préciser deux choses. La première, c'est ce que je raconte là, c'est mon imagination. Ok, c'est pas Joël qui a réécrit le Nouveau Testament. J'imagine juste que ça aurait peut-être pu ressembler à ça, d'accord? Et puis, la deuxième chose que je vous encourage, écoutez pas juste une jolie petite histoire. J'aimerais vous encourager à garder deux questions à l'esprit pendant l'histoire de Jean-Baptiste. C'est pas très gros mon affaire, désolé. Première question, mais quelle raison est-ce que nous avons de croire à l'Évangile au Québec, aujourd'hui? Hein, on a dit, la société qui nous entoure a tendance à tasser Dieu de côté. On a vu ça même dans la célébration de la Saint-Jean-Baptiste. Mais l'histoire de Jean-Baptiste, quelle raison elle me donne, quelle raison elle nous donne de croire encore à l'Évangile au Québec, aujourd'hui? Et puis, deuxième question, quel pont on peut faire entre l'histoire de Jean-Baptiste et le Québec? Comment l'histoire de Jean-Baptiste peut m'inspirer pour parler de Dieu aux gens qui m'entourent? Comment cette histoire peut répondre aux préoccupations ou aux questions de mes voisins, de mes amis, de mes collègues de travail, etc. Donc, voilà les deux questions que je vous encourage à garder à l'esprit. Et puis, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste dire un mot de prière. Ensuite, je vais lire un assez long texte, plusieurs extraits, en fait, de l'Évangile de Matthieu, qui nous parle de Jean-Baptiste et qui vont être comme le scénario de notre histoire de ce matin. Et ensuite, je vais juste raconter l'histoire de Jean-Baptiste. Donc, on va dire un mot de prière, puis ensuite, on va aller de l'avant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu te révèles à nous au travers de ta parole. Et Seigneur, ce matin, on veut dire, on veut que nos cœurs soient ouverts, Seigneur. Que tu puisses nous dire ce que tu veux nous dire au travers de cette parole. Puis Seigneur, aussi que tu nous aides, pas juste à recevoir, Seigneur, mais aussi à partager. À dire, mais comment est-ce que ce que j'ai compris de toi, je peux le partager de manière pertinente aux personnes qui m'entourent. Et Seigneur, on reconnaît qu'on a besoin de beaucoup d'aide, beaucoup de grâce de ta part pour ça. C'est pour ça qu'on prie, c'est pour ça qu'on s'adresse à toi, avec à la fois conscience de notre dépendance à toi, mais en même temps avec cette assurance que tu es le Dieu puissant qui veut rejoindre les personnes du Québec qui sont autour de nous. Amen. Alors on va lire dans Matthieu 3, les versets 1 à 17, et je vais demander à, je ne sais plus ton prénom, excuse-moi, de m'aider avec le passage des slides. Merci beaucoup. Matthieu 3, 1 à 17. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait, « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit, « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur et rendez ses sentiers droits. » Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée, de toute la région du Jourdain, se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude et ne vous avisez pas de dire en vous-même « Nous avons Abraham pour ancêtre ». En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors, Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix se fit entendre du ciel ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Un peu plus tard, dans Matthieu 14, les versets 3 à 5, en effet, Hérode avait fait arrêter Jean. Il l'avait enchaîné et mis en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, car Jean lui disait « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Hérode voulait faire mourir Jean, mais il redoutait les réactions de la foule parce qu'elle considérait Jean comme un prophète. Et un peu avant dans l'évangile de Matthieu, mais plus tard dans l'histoire de Jean, on lit Matthieu 11, 2 à 6, « Dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Jésus-Christ. Il envoya deux de ses disciples lui demander, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux, celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Baptiste. Mon nom est Jean. On m'appelle Jean-Baptiste ou Jean le Baptiseur. Mais aujourd'hui, on devrait plutôt m'appeler Jean le Prisonnier. Et demain, sans doute, Jean le Condamné. Vous voyez, quand on est en prison, on a du temps. On a beaucoup de temps. On a le temps de réfléchir. On a le temps de se poser des questions. Les vraies questions. Avant, les choses étaient simples. Il faut qu'ils grandissent et que moi, je diminue. Maintenant, tout est beaucoup plus compliqué, incertain. Est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Mais, excusez-moi, je m'égare, probablement à cause de la solitude. Laissez-moi commencer mon histoire depuis le début. Enfin, quand je dis « mon histoire », c'est plutôt celle d'Israël, mon peuple, et de Yahweh, notre Dieu, de son alliance avec nous, et surtout du Messie, du Christ, qu'il a promis de nous envoyer depuis tant d'années, de siècles même. Et il semblait qu'Israël en était tellement loin, ballotté d'une domination étrangère à l'autre, tiraillé entre le culte à Yahweh et la culture grecque, ou alors tenté de faire un mélange entre les deux. Nos rares instants d'indépendance se terminent comme ils ont commencé, dans un bain de sang, et avec comme seul résultat une puissance étrangère qui nous écrase encore plus. Évidemment, dans ces circonstances-là, comment croire que Yahweh, notre Dieu, ne nous a pas abandonnés? Comment croire que ses promesses peuvent encore s'accomplir? Comment croire qu'il est fidèle? Comment croire qu'il va envoyer le Messie, le Christ, que nous attendons depuis si longtemps? Et puis, un jour, coup de tonnerre, un ange, Gabriel, apparaît à Zacharie, mon père, pour lui annoncer ma naissance. N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants, les rebelles à la sagesse des justes, et pour préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Ça se passait au temple. Zacharie, mon père, était prêtre. Lui et ma mère, Élisabeth, étaient déjà âgés et ils n'avaient pas eu d'enfants dans leur jeunesse. Alors, imaginez combien les paroles de l'ange ont paru bizarres à mon père. En fait, il n'y a tellement pas cru que l'ange l'a frappé de mutisme jusqu'à ma naissance. Presque une année de silence à la maison. On m'a tellement raconté cette histoire que je la connais par cœur. Mais attendez, c'est que le début. Quelques mois plus tard, ma mère, Élisabeth, reçoit la visite de Marie, sa parente. Elle aussi, elle était enceinte. Alors, si mes parents étaient trop vieux pour avoir un enfant, Marie, elle, était si jeune à l'époque qu'elle n'était pas encore mariée. Mettons juste que ça a dû jaser pas mal dans la bonne ville de Nazareth. Marie a raconté qu'elle avait aussi reçu une visite de l'ange Gabriel et qu'il lui avait annoncé qu'elle serait enceinte, qu'elle mettrait au monde un fils et qu'elle lui donnerait le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Bref, l'enfant que Marie portait en elle est le Messie, l'accomplissement de la promesse de Yahweh pour Israël. Ma mère m'a même raconté que j'avais tressailli dans son ventre au moment de rencontrer Jésus qui, lui, était dans le ventre de Marie. Les choses étaient claires. Jésus est le Messie, le Christ, et mon rôle à moi, c'est de préparer son chemin, c'est-à-dire de préparer Israël à rencontrer son Dieu. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. J'ai passé ma jeunesse au désert. Vous comprenez, j'avais besoin d'être à l'écart pour connaître Dieu, celui qui nous envoie le Messie, afin de pouvoir préparer mon peuple, Israël, à rencontrer son Dieu. J'ai endossé pleinement ce rôle du prophète d'autrefois, habillé de vêtements de poils de chameau, serré à la taille par une ceinture de cuir, mangeant des sauterelles et du miel sauvage. Le but de tout ça, c'était d'interpeller le peuple. « Hey, vous autres, Yahweh, le Dieu d'Israël, notre Dieu, il est en train de nous parler aujourd'hui. » Après des années de silence, d'attente, d'incertitude, il est en train d'accomplir sa promesse envers nous. Il nous envoie le Christ, le Messie. Mon rôle, c'est d'être cette voix qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur et rendre ses sentiers droits. Alors, je me suis installé au bord du Jourdain, puis je me suis mis à prêcher. Changer d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Et j'ai invité les gens à venir se faire baptiser. Embrasser la religion juive, normalement, le baptême est réservé aux païens qui veulent embrasser la religion juive. Mais là, le message est tellement important que les juifs, comme tous les autres d'ailleurs, ont besoin de se faire baptiser pour démontrer leur changement d'attitude envers Dieu. Et les gens sont venus, par petits groupes d'abord, puis de plus en plus nombreux. Certains venaient de Jérusalem et même de tout le reste de la Judée. Imaginez la scène. Au bord du Jourdain, à Béthanie, là où l'eau s'accumule en petits lacs juste assez profonds pour pouvoir y plonger un adulte. Moi, avec mon look de prophète, on va se l'avouer, ça correspond pas tout à fait aux standards d'élégance du temple de Jérusalem. Et puis, ces gens qui viennent de partout, des hommes, des femmes, accompagnés de leurs enfants, ils viennent seuls parfois, en petits groupes, des familles entières. Certains sont à pied, d'autres viennent à dos d'âne. Des marchands, des pêcheurs, des esclaves, souvent fatigués par la route, accablés par la chaleur, ou simplement écrasés par le poids de la vie. Ils viennent pour écouter un message de la part de Dieu. Reconnaissant publiquement leur faute, ils se font baptiser comme un signe de leur désir d'une vie transformée par Dieu. Ils me demandent, que devons-nous faire ? Que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger fasse de même. Au collecteur d'impôts, je répondais de ne rien exiger de plus que ce qui leur a été demandé. Et aux soldats, ne commettez ni extorsion, ni tort envers personne, et contentez-vous de votre solde. Mais surtout, ce qui était magnifique dans tout ça, c'était de voir des gens qui reprenaient espoir. Non, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il est le Dieu fidèle qui tient ses promesses. Le Messie, le Christ, il arrive. Évidemment, tout ça n'a pas plu à tout le monde. Un type, tout seul, habillé bizarrement, qui invite les Juifs à se faire baptiser, ça n'a pas traîné que les responsables religieux de Jérusalem, des pharisiens, des sadducéens, sont venus me trouver. Nous n'avons pas besoin de ton baptême, Jean le baptiseur. Nous sommes des fils d'Abraham. À cause de notre naissance, nous sommes au bénéfice de la faveur du Dieu d'Israël. J'ai eu des mots très durs envers eux. Je les ai même traités de race de vipères. Mais vous comprenez, rien n'est plus dangereux que de voir la relation à Dieu comme un droit ou comme un dû, comme la conséquence automatique de l'appartenance à une tradition religieuse ou comme un privilège de naissance. De ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham et aussi produisez du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Il ne faut pas que ces responsables religieux, ni personne, ni vous non plus d'ailleurs, ne s'installent dans cette fausse sécurité de compter la faveur de Dieu comme un dû. Dans tout ça, mon but, ce n'était pas ma propre renommée, mon propre succès, mon ministère. Je leur ai expliqué à tous plusieurs fois. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Détacher les sandales, c'est la tâche spécifique d'un esclave envers son maître. J'espère que cette image est assez frappante pour que tout le monde comprenne que c'est pas moi le Messie et que mon rôle, c'est uniquement de préparer pour lui un chemin d'honneur. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Et puis, un beau matin, il est arrivé, Jésus, le Messie, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et il est venu se faire baptiser, comme tous les autres, comme s'il n'y avait absolument rien qui le distingue de nous, les êtres humains. J'étais choqué. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais lui m'a rassuré. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Et il s'est fait baptiser. Et en sortant de l'eau, le ciel s'est ouvert. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe. Et une voix s'est fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Quel contraste! Quel contraste entre le Christ, le Messie, qui s'identifie aux êtres humains en se faisant baptiser comme l'un d'entre nous, mais qui reçoit une pleine et entière approbation de Dieu son Père. Quel contraste avec nos leaders religieux, qui, eux, s'arrogent par leur naissance le privilège d'être appelés fils d'Abraham, un privilège que Dieu ne leur a jamais garanti. Par la suite, que le royaume des cieux s'était à enseigner les foules, à accomplir des miracles, à proclamer que le royaume des cieux s'est approché. Sa renommée allait en grandissant. D'ailleurs, deux de mes disciples m'ont quitté pour le suivre. Je les ai bénis, heureux qu'ils aient pu trouver un maître plus grand que moi. Il faut qu'ils grandissent et que moi je diminue. Quel moment extraordinaire! Après des siècles d'attente, Dieu se montre fidèle envers Israël. Il envoie son Messie parmi nous. Jésus marche sur cette terre. Il proclame une parole puissante. Elle est confirmée par des signes et des prodiges. Les foules le suivent, captivées par son enseignement. Le Christ vient rétablir la justice de Dieu sur une terre qui en a tellement besoin. Cet élan d'espérance allait pourtant venir se briser et mourir quelque temps plus tard, au fond d'une cellule de la prison d'Hérode. Voilà comment les choses se sont passées. Comprenez-moi bien, je prêche aux foules un changement d'attitude envers Dieu. Et ça doit se traduire par une vie transformée. Et ce qui est vrai pour les plus petits, les esclaves, les collecteurs d'impôts, est valable aussi pour les plus grands. Alors, quand le roi Hérode est allé en visite à Rome et qu'il a séduit là-bas Hérodiade, la femme de Philippe, son frère, puis qu'il l'a convaincue, elle, d'abandonner son mari et de le rejoindre à Jérusalem, et on sait tous que Hérode est déjà marié de son côté. C'était impossible pour moi de me taire. Alors j'ai dénoncé Hérode plusieurs fois. Je lui ai dit, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Et au lieu de changer d'attitude, Hérode s'est endurci. Et Hérodiade m'a ouvertement haï. Et ça n'a pas traîné que je me suis retrouvé prisonnier dans une cellule de la forteresse Machaerus, proche de la mer Morte. La chaleur est étouffante pendant le jour, et le peu de fraîcheur que la nuit apporte n'arrive jamais jusqu'à ma cellule. Ma cruche d'eau est toujours croupie et tiède, mon pain toujours sec. La solitude et l'ennui me pèsent. Mais mes plus grands tourments, ce sont ces questions qui tournent sans cesse dans ma tête, qui me rongent pendant la journée et qui me privent de sommeil pendant la nuit. Pourquoi l'injustice triomphe-t-elle de la justice? Est-ce que Hérode, le tyran, aurait plus de puissance que Jésus, le Messie? Est-ce que j'ai été victime d'une illusion depuis le début? Toute cette histoire de Messie, est-ce que c'est juste le fruit de l'imagination de mes parents, un peu trop vieux pour être lucides? Et de Marie, une jeune fille trop impressionnable pour comprendre ce qui lui arrivait? Allons-nous vivre une fois encore ce cycle trop souvent répété d'un élan d'espérance déçu qui se termine dans un bain de sang, avec comme seul résultat une plus grande influence des païens sur Israël? Pourquoi Dieu me laisse-t-il, moi, son messager? Et surtout, Pourquoi laisse-t-il son message être injustement lié au lieu de manifester sa justice? Ou alors, est-ce qu'il y a eu erreur sur la personne? Est-ce que Jésus n'est pas le Messie finalement? Est-ce que j'ai consacré toute mon énergie, toute ma vie, à préparer le chemin pour la mauvaise personne? À force d'être seul, vos pensées peuvent parfois s'égarer. Alors, j'ai décidé de faire une dernière tentative. J'ai envoyé deux de mes disciples vers Jésus avec cette question. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Et je viens de recevoir sa réponse. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Waouh! Une réponse typique de Jésus. Au lieu de me dire oui ou non, il me cite un passage de l'Écriture. Un passage qui parle des signes qui doivent accompagner la venue du Messie, du Christ. En un sens, il ne me donne pas d'informations nouvelles. Je sais que Jésus opère des miracles et des prodiges. Mais en même temps, il me donne une lumière nouvelle, une révélation par rapport à ces miracles. Ce sont des signes qui confirment qu'il est bien le Messie. La parole écrite par Ésaïe, voilà des siècles. Cette même parole prononcée aujourd'hui par Jésus, cette parole qui est suivie d'effets puissants, de miracles et de prodiges. Cette parole, elle transforme et bel et bien le Messie. Cette parole change ma perspective, elle transforme mon cœur, elle renouvelle ma vision. Oui, Jésus est bel et bien le Christ et le Messie. Non, il n'est pas nécessaire d'en attendre un autre. Non, ma vie n'a pas été vaine et inutile. Et même si Hérode, le tyran, me fait exécuter demain matin, je veux garder mes yeux sur le Messie, garder ma confiance en Jésus, le Christ. Au fond de ma prison, je peux être ce bienheureux, je peux être ce béni pour qui Jésus ne représente pas un obstacle. Jusqu'au bout, et même au prix de ma propre vie, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Lorsqu'on célébra l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des invités et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment à la jeune fille de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ordonna de la lui donner et il envoya décapiter Jean dans la prison. Jésus se mit à dire à la foule à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de tenues élégantes? Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. Car c'est celui à propos duquel il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Amen.